Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires. Une émission animée par Nathalie Croiset.
Les territoires ont donc un rôle central à jouer dans la rénovation énergétique. C'est pourquoi on consacre une séquence tous les mois dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment en zoomant sur une rénovation emblématique et en parlant avec les acteurs qui ont été engagés dans le projet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet d'envergure à Caen qui a été porté par Normandie Aménagement qui a accueilli et acquis les anciens locaux de la concession Renault afin d'y accueillir Moho qui est un tiers-lieu d'envergure internationale. Et justement, on va en parler avec Pascal Huyck-Deuillet. Bonjour.
Bonjour.
Qui est donc la directrice de Normandie Aménagement, puisque je parlais donc de ce projet qui a été porté par vous-même. Et à côté de vous, c'est très bien comme ça, il y a une double vision, on va dire, Stéphane Bagot, bonjour.
Bonjour à vous.
Voilà, qui est chef de projet bâtiment au Centre-Ouest chez Aegis, un groupe de conseil d'ingénierie et d'exploitation qui va pouvoir expliquer un peu concrètement comment tout ceci s'est mis en place. Et puis également, il faut toujours un architecte, évidemment, dans l'aventure. On est en ligne avec Andrea Canina, bonjour.
Bonjour à vous,
voilà,
bonjour aux auditeurs.
Voilà, de chez Canina Architect, quelques mots pour vous présenter.
Je suis du coup Monsieur Canina, gérant de la société Canina Architect. J'ai eu la chance de travailler sur ce projet dont vous venez de parler, Moho, qui a été porté par Normandie Aménagement à Caen, dans le centre-ville. On a l'habitude d'opérer dans différents secteurs, que ce soit dans l'architecture d'intérieur, mais aussi dans des projets plus d'envergure comme celui-ci. Celui-ci a été exceptionnel, on va dire, en termes de taille, de durée, de nombre d'entreprises et de surface aussi, de budget. Donc on a eu cette chance, ça a été une expérience unique.
Voilà, on va en parler concrètement de cette expérience unique. Mais d'abord, avant de vous passer la parole, Pascal Huyck-Deuillet, peut-être Stéphane Bagot, présenter Aegis aussi.
Oui, alors Aegis, moi je fais partie de l'agence cannaise, l'agence normande, qui a travaillé sur ce dossier. Mais Aegis est un bureau d'études pluridisciplinaire qui est basé sur tous les territoires français et ainsi qu'à l'international. On construit des bâtiments de tailles diverses et variées, beaucoup pour la commande publique, sur tout le territoire français ainsi qu'à l'étranger.
Alors, commande publique, justement, je vais me tourner vers Pascal Huyck-Deuillet, directrice de Normandie Aménagement, pour parler donc de Moho, ce projet d'envergure, disait Andrea Canina il y a un instant, pour créer un lieu de travail, on va dire, très différent, mêlant mixité, pluridisciplinarité, et un lieu aussi international. Donc, c'est parti de cette volonté au départ.
Oui, effectivement, au départ, c'est parti de l'idée d'un certain nombre d'acteurs, qui sont d'ailleurs aujourd'hui les exploitants du Moho, on l'appelle comme ça, qui avaient l'idée d'avoir une mixité, on va dire, d'activités, de mise en commun de différents industriels, sociétés de services, du territoire de Caen-la-Mer, pour valoriser ce territoire à l'échelle de la Normandie, mais bien au-delà de la France et encore au-delà à l'international. Donc nous, je vais peut-être nous présenter en quelques instants.
Bien sûr.
Une société d'économie mixte, pour expliquer effectivement pourquoi commande publique et pourquoi on s'est retrouvé en tant que maître d'ouvrage sur ce projet. Donc une société d'économie mixte portée essentiellement notre capital par la communauté urbaine de Caen-la-Mer, donc avec ce souci d'apporter, on va dire, un terrain propice au développement économique sur le territoire. Nous sommes 50 salariés, l'entreprise compte 50 salariés, et nous avons une plus pluridisciplinarité aussi d'activité, puisque notre service, on va dire, économique va à la fois dans la construction, ce qui était là notre métier, en l'occurrence en tant que maître d'ouvrage de ce projet, la construction, la promotion de bâtiments, de locaux d'activité, mais également de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire en gros fournir aux entreprises des fonciers pour qu'ils puissent développer leur activité. On est également présent sur l'habitat. Mmh. Donc on accompagne la communauté urbaine, notamment sur les gros projets d'aménagement, et nous sommes porteurs d'immobilier, c'est-à-dire que parfois nous portons en tant que foncière les locaux d'activité des entreprises pour lesquelles nous construisons. Pour revenir sur ce projet, effectivement, c'était un projet qui était souhaité, je dirais, à la fois par la commande publique, c'est-à-dire la volonté de la communauté urbaine dans sa compétence de développement économique, de donner un moyen aux entreprises locales, mais aussi au tissu de recherche de Caen, qui est relativement peu connu malheureusement, mais qui quand même, en tout cas dans la sphère de la recherche médicale par exemple, quand même commence à avoir une belle notoriété nationale et internationale, de donner à ce tissu économique locale et de recherche, le moyen de travailler en coordination, de mener des projets en commun. Et c'est vrai que c'est greffé à cette volonté publique un tissu de, je dirais, un ensemble d'entrepreneurs locaux qui vont aussi bien de l'industrie, je dirais, agroalimentaire, de l'industrie de pharmaceutique, par exemple, mais également des services comme la banque, par exemple, ou de coopératives agricoles. Hein, on est en Normandie, donc on a aussi de belles structures de coopératives agricoles qui ont eu pour idée de dire on va essayer de travailler en commun, de développer des projets autour de nos métiers respectifs, mais de voir comment on va pouvoir mutualiser, mettre en commun avec notamment des chercheurs, avec l'université et autres, des projets nouveaux qui pourront aboutir, évidemment, l'objectif étant d'aboutir à des débouchés notamment industriels en fabrication. Et c'était l'occasion, puisque il y avait un ensemble immobilier qui est en fait une ancienne concession automobile Renault, en plein centre-ville, comme l'exposait tout à l'heure Andrea. Donc, en Normandie, et notamment à Caen, nous avons quand même, après la reconstruction, beaucoup d'îlots d'habitat qui se constituent, une espèce de grand rectangle avec un îlot central assez important. En l'occurrence, là, on a 17 copropriétés, c'est-à-dire que ce projet, on l'a mené autour de 17 copropriétés d'habitat, ce qui a renforcé quand même, les difficultés pour mener à bien un projet qui pèse un petit peu plus de 7500, enfin environ 7500 mètres carrés de bureaux.
Alors je vais proposer à Stéphane Bagot, parce que le souci c'est que vous ne me voyez pas, donc vous m'entendez, mais je vais proposer justement à Stéphane Bagot, mais c'est très bien, vous avez introduit évidemment la présentation de ce lieu très particulier, donc on est quand même sur une friche en plein centre-ville, il a fallu faire des choix techniques.
La première chose qu'il a fallu faire, hein, c'est d'abord de faire un diagnostic, un état des lieux, hein, du site, hein, parce que l'idée, hein, de cette friche, hein, c'était quand même d'essayer d'en récupérer un maximum, hein, de ne pas tout démolir, hein, de conserver un maximum de bâti. Donc on a commencé par réaliser des études structurelles, hein, s'assurer que la capacité portante de l'ensemble des équipements, de ce qui était existant, pouvait recevoir ce que l'on avait prévu, hein, de réaliser. Donc, conserver un maximum de. Le but étant de conserver un maximum de bâti, un maximum de plancher. C'est ce qui s'est passé, hein, sur les parties côté route. Hein. Ensuite, tout ce qu'on a pu conserver, hein, au niveau des avoisinants, on les a conservés également, qui étaient les voiles en béton. En revanche, hein, il y avait un cœur d'îlot, hein, c'était une ancienne concession automobile, donc avec une charpente métallique, hein, qui, elle, hein, ne permettait pas de recevoir les caractéristiques des isolants, le poids des isolants, puisque l'idée quand même c'était de créer un nouveau bâtiment avec une enveloppe thermique, hein, de façon à ce qu'on puisse limiter les consommations. Donc c'était de déposer cette charpente et de refaire une charpente neuve. Hein. Ensuite, on a fait des diagnostics sur la pollution, puisque en ancienne concession, il y avait forcément un peu de pollution, donc il a fallu, hein, enlever dans le cadre des travaux. Et toutes ces analyses, hein, nous ont permis ensuite de déjà définir la base du site, ce que nous allions faire, et puis de se lancer dans le projet architectural.
Sachant que c'est un projet, il y a des bâtiments qui ont été réhabilités, puisqu'on parle ici de rénovation, mais il y a aussi un bâtiment qui a été refait intégralement.
Voilà, c'est justement cette partie centrale, hein, la partie, hein, ancienne concession, atelier, hein, qui était en charpente métallique, hein, qui, quoi qu'il arrive, on ne pouvait pas la conserver, hein, cette charpente. Hein. Donc, elle a été entièrement déposée, hein, refaite à neuf, un peu en gardant l'enveloppe et l'aspect esthétique de l'existant.
Alors, peut-être Andrea Canina peut commenter aussi techniquement ce qui a été réalisé.
Oui, aussi d'un côté urbanistique, entre guillemets, dans le sens qu'on avait effectivement des contraintes techniques, comme Stéphane vient très bien d'expliquer. On avait aussi des contraintes liées à l'urbanisme. Donc, on était obligé de s'inscrire dans l'enveloppe du bâtiment existant. Des règles liées au PLU local nous obligeaient à ne pas sortir de cette enveloppe. On était bien évidemment obligé aussi de respecter des facteurs d'ombre portés, comme Pascal vient d'expliquer. On était encerclé, entre guillemets, par les bâtiments avoisinants qui étaient occupés par les résidents. Donc, on pouvait pas surélever la structure pour éviter d'amener des ombres et un manque de lumière, du coup, au niveau plus bas de bâtiments avoisinants. On avait des contraintes liées à la proximité de sites remarquables, des sites historiques, donc de bâtiments classés. Bien évidemment, on a dû se confronter avec les architectes de Bâtiments de France pour tout ce qui était l'enveloppe du bâtiment. Comme Stéphane vient de le dire, un facteur important, c'était lié à l'ancien usage du bâtiment, donc de la friche industrielle, donc du garage de réparation automobile, avec des terres polluées qu'on a dû prévoir à évacuer pour pouvoir, on va dire, prévoir un nouveau bâtiment avec un nouveau usage qui ne soit pas, qui ne porte pas les stigmates quelque part de l'usage qui était fait auparavant d'un point de vue négatif, donc cette pollution. Ensuite, voilà, ce que les contraintes principales sont liées, on va dire, à la logistique du chantier pour lequel on a été assisté par le cabinet Sofrecid, qui était l'OPC de l'opération. Comme on voit sur les images, les auditeurs qui sont devant leur écran, on peut voir vraiment le caractère d'encerclement quelque part du chantier. On avait 17 copropriétés tout autour, avec des accès assez compliqués, avec des nuisances que forcément on était obligé de maîtriser pour ne pas impacter d'une façon trop défavorable les gens qui habitaient l'îlot. Et voilà, donc on venait de dire tout à l'heure, deux des trois bâtiments qui composent le site, les deux qui sont en périphérie, ont été conservés, ont été réhabilités avec une réhabilitation relativement lourde pour pouvoir adapter l'enveloppe à l'usage prévu. Et le site principal, le bâtiment principal en cœur d'îlot, lui, il a été complètement reconstruit, mais comme je disais, tout en s'inscrivant dans l'enveloppe précédente du bâtiment.
Et Pascal, lui Guidoyer aussi, il y a un niveau, on va dire, d'exigence de certification environnementale qui a été élevé aussi sur ce projet. Ah, on ne vous entend plus. Pardon, on vous entend maintenant. Pardon, je ne vous entendais pas. Allez-y.
Excusez-moi. Donc effectivement, on a souhaité, avec les porteurs de projet, donc avoir un label LEED et BREEAM sur ce bâtiment. Pourquoi des labellisations internationales? Parce qu'on a dit, on avait volonté hier sur ce projet l'objectif d'accueillir des sociétés à l'international qui peuvent œuvrer avec les locales qui aujourd'hui sont dans ce bâtiment. Donc c'était vraiment une volonté d'avoir ce label qui parle à l'ensemble des industriels ou autres secteurs d'activité à l'international. Donc on a été exigeants. C'est vrai qu'on a découvert, en ce qui nous concerne en tant que maître d'ouvrage, l'exigence de ces labels. On n'avait pas eu encore d'expérience en la matière en termes de confort de travail pour l'un et puis notamment d'aspect énergétique pour l'autre, dans un environnement qui n'était pas forcément toujours très propice, puisque le bâtiment, et en l'occurrence l'atelier, était classé ICPE. Donc nous avons travaillé effectivement avec la dépollution, mais aussi avec les services de l'État pour lever l'ICPE de manière à donner aux exploitants actuels le moins de contraintes possible dans l'exploitation que recèle un ICPE de type atelier automobile. Donc on a, je dirais, aujourd'hui un confort de travail qui était important, donc par une luminosité aussi, pour Andrea pourra le dire, qui apportait, puisque vous avez vu qu'on est bien encerclé de copropriétés privées à vocation d'habitat, apporte la lumière, notamment la qualité du coup du travailler dans ce, enfin du travail dans cet ensemble immobilier, on l'apporte par une toiture 2000 m², on va dire, de vue extérieure, enfin de, et puis également peut-être qu'Andrea pourra le dire, avec aussi des apports, on va dire, de un petit peu végétaux. Parce que c'est vrai que dans ce cœur, on va dire, très minéral, il fallait apporter quand même un peu de végétaux. Donc, je ne sais pas si Andrea a prévu d'évoquer un petit peu ça, mais dans sa conception du bâtiment, il nous a apporté des îlots de végétaux qui apportent à la fois et la lumière et quand même ces vues sur la nature, entre guillemets.
Voilà. Alors, je vais passer la parole tout à l'heure à Andrea Canina, mais justement, Stéphane Bagot, peut-être pour rebondir sur ces degrés d'exigence de certification qui visaient à intégrer, on va dire, les meilleures pratiques aussi en matière non seulement d'impact environnementaux, mais aussi de bien-être, de confort humain, puisque aussi ce sont des espaces qui sont amenés, évidemment, à être occupés.
Exactement. Dans ces labels, hein, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte. Hein. Il y a le paramètre environnemental et le paramètre bien-être des personnes. Hein. Et le paramètre environnemental, hein, donc l'idée, hein, c'est bien entendu, hein, sur ce type de bâtiment, de consommer le moins possible. Hein, et que, si on veut consommer le moins possible, il faut qu'on fasse le bâtiment le plus isolé possible. Hein, sans... Alors, on travaille d'abord sur l'isolation, on travaille sur l'amener de lumière dans le bâtiment, qui est important. On va travailler sur la ventilation du bâtiment.
Oui, j'allais dire ça, c'est un point aussi important quand on vit à plusieurs, dans des espaces comme ça, la ventilation, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs, de qualité de l'air dans une autre séquence.
Exactement, cette ventilation est importante. On est capable de faire de la ventilation naturelle sans forcément mettre des installations, des ventilateurs mécaniques qui vont consommer de l'électricité. Donc on est capable de trouver des solutions adéquates. Et on va prendre en compte également pour tout ce qui est... la gestion des apports solaires, puisque comme on le disait, si on veut avoir, on est en cœur d'îlot, on a beaucoup de vitrages, soit en toiture, soit des patios qui ont été créés au cœur de cet îlot pour amener la lumière aux différents niveaux. Il y a, ça nécessite la mise en place de stores, de brise-soleil, de facteurs solaires particuliers sur les menuiseries. Enfin, ça nécessite des études approfondies pour que le bâti soit le plus confortable possible.
Et en termes de matériaux, je suis désolée, je donne la sensation de vous interrompre parce que vous ne me voyez pas, donc ce n'est pas toujours facile dans l'exercice.
Et en termes de matériaux, il y a beaucoup de bois, de matériaux d'acier également, puisque l'idée c'était de conserver un peu l'enveloppe. L'atelier, l'image de l'atelier. Donc l'atelier automobile qui a été réalisé en acier il y a 50 ans. On a souhaité réaliser, utiliser le même matériau pour refaire cet ouvrage. Après, bon, tout à l'heure je parlais du confort, du bien-être des personnes. Dans ces différents labels, ils ont poussé ces labels à faire des études que l'on ne fait pas forcément, mais qui étaient très intéressantes dans le sens où on a fait une simulation thermodynamique sur le projet. Et dans cette simulation thermodynamique, on a fait des calculs, en tout cas, on a calculé l'indice qu'on appelle l'indice PNV, qui est un indice lié au confort de la personne dans chacun des bureaux. De façon, c'est un indice qui existe depuis de nombreuses années, mais qui permet de déterminer la qualité, le confort que peut avoir une personne en fonction de la température dans la pièce, en fonction de l'air, du souffle de l'air dans la pièce, en fonction de sa température corporelle. Et donc, ces différents calculs nous ont aidés à définir quels étaient les équipements techniques à mettre en œuvre, pièce par pièce, de façon à ce que la personne qui travaille dans les bureaux soit dans un endroit le plus confortable possible.
Alors, Andrea Canina, justement, pour rebondir sur ce que disait Pascal Huygdeuyer, donc sur l'aspect luminosité qui a été important, la végétalisation aussi.
Tout à fait. Donc, de par le contexte, on va dire, dans lequel on est venu construire, donc les immeubles de 4-5 étages tout autour, forcément, il y avait un manque de lumière naturelle qui était un facteur à prendre en compte assez important. On n'avait pas des façades ouvertes sur l'extérieur, en tout cas pas sur le bâtiment principal, qui est celui en cœur d'îlot. La seule façon qu'on avait pour faire entrer la lumière, c'était justement... la faire entrer de façon zénitale, donc par le toit, d'où les 2000 m² de verrières qui ont été prévues sur le projet, avec une protection solaire, comme il disait Stéphane, c'est-à-dire surtout des stores extérieurs commandés par gestion technique du bâtiment, la GTB, pour éviter justement les apports solaires trop importants en été. Et on a aussi prévu un certain nombre de patios en périphérie du bâtiment central qui permettaient justement d'apporter de la lumière non seulement au premier étage mais aussi jusqu'au rez-de-chaussée. Dans ces patios, du coup, on en a profité pour amener une végétalisation justement avec un traitement végétal des lieux, une végétalisation en double hauteur, de façon à que même depuis le premier étage, on puisse avoir un aperçu de la végétalisation. Ensuite, on va dire un contraste assez important avec l'usage précédent des lieux, ça a été le fait de prévoir une végétalisation aussi de la toiture, donc un toit végétalisé sur la presque totalité de cet îlot central. On va dire les habitants de l'îlot Nous ont fait part, d'ailleurs, en cours du projet, lors de la présentation du projet et aussi en cours de travaux, du changement que forcément ils avaient, en regardant par leur fenêtre, leur balcon, par rapport à la toiture précédente du garage Renault. C'était un aspect bien évidemment esthétique beaucoup plus agréable, mais aussi d'un point de vue thermique, le fait d'avoir une étendue végétale plutôt que une couverture classique, on va dire, ça permettait d'avoir des avantages sous différents points de vue. Donc voilà, donc la luminosité, effectivement, la ventilation, comme il disait Stéphane, dans ces verrières on a pu prévoir des ouvrants de confort thermique que lors de des jours de canicule, on va dire l'été, permettent justement d'évacuer la chaleur la nuit sans devoir forcément faire appel d'une façon importante à la ventilation mécanique ou à la climatisation. Donc c'est tous des aspects, on va dire, qu'on a essayé d'étudier pour améliorer le confort des lieux sans forcément impacter trop sur la consommation énergétique.
Voilà, donc Pascal Huyghe-Noyer, on a bien décrit, hein, on va dire techniquement, ce bâtiment, 7500 m², qui sont donc en activité là depuis quand? Ça s'est terminé quand, on va dire, cette réhabilitation, et aussi il y a une partie de construction aussi. Est-ce que vous êtes avec moi, Pascal? La question est à Pascal Huyghe-Noyer. Est-ce qu'on vous a toujours? Voilà. Allez-y, je vous en prie.
Oui. Vous m'entendez?
Oui. Voilà.
Donc, je disais, effectivement, on a livré, nous, en janvier 2021. Il y a eu aussi des travaux d'aménagement par les preneurs, complémentaires à ceux que nous avions déjà fournis, qui fait qu'ils ont ouvert au mois de mai 2021, avec quand même un certain succès local, déjà, parce qu'il y a une curiosité. Ce bâtiment, comme on l'a vu, il est en cœur d'îlot. Donc, effectivement, les deux accès qui sont sur deux copropriétés distinctes donc ne permettent pas de voir exactement à quoi correspond le bâti. Donc, il y a eu une grande curiosité, parce qu'on a beaucoup travaillé aussi la communication sur ce projet. Et puis, que je rappelle qu'il est porté par un consortium qui se sont organisés en fondation de mécènes, donc essentiellement locaux, qui eux-mêmes, je dirais, font un petit peu la communication sur ce projet. Donc, aujourd'hui, il accueille aussi, d'ailleurs, des écoles d'ingénieurs. Deux écoles d'ingénieurs sont aujourd'hui occupent en partie ces locaux. Rappelez également, je ne sais pas si ça a été dit, mais ou dans les descriptifs, que bon, les 7500 mètres carrés se composent aussi d'une salle de conférence et d'un petit amphithéâtre de 200 places, qui fait qu'il accueille aussi des manifestations locales, soit pour les entreprises, soit parfois pour la puissance publique, hein, par les collectivités qui viennent réaliser un certain nombre de manifestations. Et de ce fait, il a, je dirais peut-être un petit peu par le bouche à oreille, parce que ça fonctionne aussi beaucoup comme ça, une vraie notoriété. L'espace extérieur, parce qu'il y a une toiture terrasse, mais il y a aussi sur laquelle on peut accéder, permet aussi d'organiser quelques manifestations sur le niveau supérieur. Ce qui était peut-être important à dire aussi pour nous, c'était 17 copros, ça représente un certain nombre de logements, de résidents. Outre la partie travaux, il était important aussi que eux, sa culture, on va dire, la présence de cet équipement au milieu de leur habitat, parce que c'était pas si évident, il y a une vraie proximité. Préciser quand même, nous n'avons pas eu de recours en tant que maître d'ouvrage avec 17 copros autour. On a quand même été très sensibles à la communication sur les travaux, on a fait des réunions publiques, et des réunions des copros pour apporter une précision sur la nature des activités qui sont là. Peut-être nuisantes au niveau des travaux, comme disait Andrea, mais pas nuisantes, qui n'apportent aucune nuisance en termes d'exploitation. Donc, il y a vraiment une vraie appropriation de cet équipement, je dirais semi-public, semi-privé. Quand je dis semi-public, c'est parce que le montage financier nous a amené effectivement à avoir des espaces dans le bâtiment qui sont aujourd'hui ouverts et mis à disposition gratuitement des citoyens lambda qui veulent aller faire un peu de coworking, notamment sur les accès qui ne nécessitent pas d'avoir un abonnement.
Voilà, donc, c'est un vrai effet de levier pour la région, avec quand même un projet de 18 millions d'euros, c'est ça, hein, quand même.
Alors, c'est un projet de 18 millions d'euros, effectivement. Pendant mon aménagement, ça s'est concrétisé en une VFA, hein, une vente en état futur d'achèvement au profit de la collectivité, donc quand la maire, qui porte ce projet. Et puis, une mise en location avec un bail signé avec les membres fondateurs de la fondation qui se sont constitués en SAS et qui aujourd'hui ont signé le bail, donc le bail en état futur d'achèvement, avec la collectivité locale, concomitamment à la signature entre nous et la communauté urbaine de la VEFA. Donc tout a été cadré financièrement, évidemment, avec des aides publiques, hein, parce que le bâtiment a un coût quand même assez conséquent. Mais comme on le disait, on a aussi des ambitions qui étaient importantes sur le plan énergétique et sur le plan des labels, labellisés évidemment, mais sur le plan aussi du confort de travail, et qui fait que aujourd'hui, je couvre la location, entre guillemets, que doivent porter les porteurs de projets. Voilà, les
exploitants. Alors Stéphane Bagot, quel enseignement, j'allais dire, vous avez tiré de ce projet d'envergure?
Pour nous, c'est une très très belle référence, hein. Ce projet de restructuration, ce projet de rénovation énergétique de grande ampleur, hein, avec ces différentes labellisations. Et on se rend compte, hein, puisque sur ce bâtiment, il y a une GTC qui a été installée, hein, on se rend compte après un peu plus d'une année de mise en service, hein, que les calculs et les consommations qui avaient été envisagées, hein, imaginées, hein, avant la livraison, hein, eh bien, on reste dans les clous de ce qui était prévu initialement. C'est un bâtiment, on va dire, sobre, hein, énergétiquement, au vu de la surface, hein, de ce bâtiment. C'est un grand plaisir d'avoir travaillé sur cette opération.
Et Andrea Canina, j'imagine aussi un grand plaisir, et on le voit, hein, de plus en plus, et aussi la réglementation le pousse, à la réhabilitation de friches industrielles aussi, c'est une piste d'avenir.
Tout à fait. C'est justement ce que je voulais rajouter, l'importance, bon, bien évidemment, un plaisir de travailler avec les acteurs qui viennent de me précéder, là, ça c'est évident. Moi, je voulais porter justement mon attention aussi sur l'importance de se confronter avec notre contexte urbain, que ce soit en France ou partout ailleurs, un peu en Europe et ailleurs, avec des reliquats, entre guillemets, du bâti ancien, donc des friches industrielles qui se trouvent des fois, comme dans ce cas-là, au plein cœur d'une ville, qui sont quelque part abandonnées un peu à leur destin, qui sont non plus un usage prévu. Donc, il faut se confronter avec ce type de bâtiment, il faut réussir à les réintégrer à l'usage quotidien de la communauté, de la société, pouvoir les réhabiliter, donc, et en trouver un nouveau usage. On en a de plus en plus, il faut faire avec, il faut trouver des solutions pour pouvoir s'en réapproprier. Un dernier mot pour ce qui me concerne, si j'ai encore 2 minutes, c'était pour remercier bien évidemment Normandie Aménagement, remercier GIS, tous les acteurs qui ont travaillé côté maîtrise d'œuvre. On a travaillé avec un acousticien, avec un économiste, mais remercier surtout aussi les entreprises qui ont vraiment donné tout leur mieux pour mener à bien ce projet. On a fait le choix avec Normandie Aménagement d'essayer de la limite du possible, de travailler avec des entreprises locales, justement aussi dans l'esprit de redynamiser un peu le tissu économique local. Voilà, on a été très contents du choix qu'on a fait. Et donc, je tiens quand même à les remercier pour l'aide qu'ils nous ont apportée sur le projet. Sans eux, bien évidemment, on n'aurait pas réussi.
Bah très bien, puis on parle beaucoup de local ici, donc c'est important aussi de valoriser ces entreprises. Bah merci à tous les trois pour la présentation, hein, de ce projet MOO, à vous Andrea Canina de Canina Architecte, à Stéphane Bagot, chef de projet bâtiment Centre-Ouest chez Aegis, et à Pascal Huyghe-Deuyer, directrice de Normandie Aménagement. Merci beaucoup pour cet éclairage. On va tout de suite enchaîner en parlant de décryptage réglementaire.